Et voilà, nous sommes donc de retour sur l'antenne de Radio Esperanza, radio.esperanza.be et sur le 106.2 autour de Fleuref, également sur les radios partenaires. On va commencer par 48 FM évidemment, puisqu'ils nous accueillent avec culte dans ce studio en plein air, tout en bois. Il y a également Run à Namur, Radio Kichifel. QCM, RQC, donc Radio Kichifel à Moucron, Radio Panique et Radio Campus à UFM. Bruxelles. J'ai oublié quelqu'un. UFM à Mons. Voilà. Et donc à Chaisso, donc on va parler tantôt d'un spectacle avec les principaux acteurs. Donc c'est Congo et ça que tu as été voir. Donc c'est pour ça que tu n'étais pas avec nous au début de l'émission et tu as raté notre coup d'état de femme blanche pleine de privilèges. Et donc toi, tu voulais nous parler de décolonisation et de féminisme.
Oui, donc je pense que c'est un peu la thématique de l'émission du jour, donc toujours les privilèges. Et je suis en train de terminer tout doucement le dernier livre de Françoise Vergès qui s'appelle « Un féminisme décolonial ». Et donc dans cet ouvrage, elle remet en fait en question les bases sur lesquelles se sont construits les principes et les préceptes du féminisme. Donc elle dit effectivement que le féminisme est très blanc, très bourgeois finalement, puisque ça a été pensé par des femmes qui avaient l'occasion de penser, qui avaient les capacités de penser, donc c'est-à-dire universitaires, des femmes qui ont étudié, qui ont aussi les moyens financiers de pouvoir prendre le temps de penser et de réfléchir. Et donc à partir de là, elle remet en question le processus. Pas forcément l'intention, parce que l'intention est bonne. L'intention à la base, c'est de libérer toutes les femmes des entraves que la société leur met parce qu'elles sont des femmes. Mais remettre en question le contexte dans lequel ce féminisme a été pensé et dans lequel il est appliqué. Donc on en parlait récemment, ben, justement ces femmes bourgeoises qui peuvent se permettre aussi d'avoir des domestiques, d'avoir des employés, comment traitent-elles leurs employés? Comment voient-elles ces autres femmes qui n'ont pas la même condition qu'elles? Est-ce qu'elles font en sorte que ces femmes aient les mêmes privilèges qu'elles en tout point de vue? Et œuvre pour qu'elle puisse un jour avoir les mêmes privilèges. Parce qu'avoir une employée, une jeune fille au pair, c'est très bien, la payer, c'est très bien. Mais est-ce qu'à un moment, on lui laisse aussi le temps d'étudier, puisque les jeunes filles au pair, elles font ce travail? Et il y a beaucoup de jeunes filles comme ça, par exemple, qui sont exploitées. Il y a aussi au niveau professionnel, les femmes qui sont, on va utiliser le terme générique, éduquées, qui peuvent gérer des entreprises. Est-ce qu'elles sont inclusives dans leur manière de faire avec les autres femmes de leur entreprise? Est-ce qu'elles ne seront pas aussi dures, voire plus dures, avec d'autres femmes qui doivent peut-être s'absenter plutôt pour aller chercher les enfants à l'école? Enfin, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est des questions qui sont posées. Et alors, par rapport au contexte du féminisme blanc, occidental, qui veut imposer cette norme-là, par exemple, aux féministes africaines ou asiatiques ou sud-américaines, qui n'ont pas du tout la même conception du féminisme, déjà par le contexte social, familial aussi, et puis par le quotidien. Le quotidien ne permet pas d'appliquer les mêmes principes à toutes les femmes dans tous les pays, et ça aussi c'est rarement remis en question. Et la question du voile est une question qui revient régulièrement là-dessus. Est-ce qu'on doit imposer aux femmes voilées de se dévoiler sous prétexte que c'est ça le féminisme et la liberté, ou bien, comme on en parlait au début de la semaine dans les premières émissions, la tyrannie de la dentelle, faut-il les laisser en pleine conscience faire le choix de porter ou pas ce voile sans les juger, mais plutôt les encourager, les soutenir dans tout ce qu'elles prendront comme décision qui est bien pour elles. D'accord. Voilà, et donc Françoise Vergès, un féminisme décolonial de La Fabrique Édition, que je suis en train de lire actuellement.
Mais c'est intéressant, mais elle pose des questions. Donc c'est intéressant, elle pose des questions, mais est-ce qu'elle donne des réponses?
Oui, elle donne des réponses aussi, mais elle retrace d'abord l'histoire du MLF, justement.
Ah ouais. Hein,
une petite chanson.
Debout, debout. On l'aura tantôt. C'est prévu, t'inquiète.
Elle retrace l'histoire et donc elle dit effectivement que tout naît du capitalisme et qu'à partir du moment où les femmes s'engouffrent dans le système capitaliste, elles ne peuvent plus se dire féministes parce qu'elles se gangrènent elles-mêmes dans un système, le système qui nous oppresse toutes.
Oui, et qui finalement. En plus... Alors, ça, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans Vas-y Tyrannie. Le capitalisme est né du patriarcat.
Du patriarcat, donc, et, voilà, donc, en et fait, prend les femmes comme...
Donc, en tant que féministe, on ne pourrait pas s'intégrer dans le système capitaliste. On ne peut pas se dire
capitaliste. Non, on ne peut pas.
On ne peut pas se, donc on se dire féministe pas. Et être chef d'entreprise.
Bon, moi, je pense que si. Hein. Personnellement, je pense que si. Mais il faut changer la donne. Il faut changer la donne. Il faut changer... Parce qu'il ne faut pas confondre capitalisme et faire de l'argent.
En effet, en effet.
Et quand tu dis qu'il faut changer la donne, selon toi, il faut la changer comment?
Ben, l'aborder en mettant tout simplement l'humain au centre. Ça fait très politique ou idéaliste que je vais dire, mais en mettant l'humain au centre et en se rendant compte qu'on n'est pas juste les rouages d'un système ou des petites mains d'une usine, etc. On doit pouvoir se dire qu'on peut faire de l'argent, mais on peut le faire proprement, sans forcément exploiter les gens et sans forcément bafouer les droits des gens, ne fût-ce que dans leur contexte de travail, qui va se répercuter dans leur contexte familial et social, etc. Donc oui, je pense qu'on peut faire de l'argent sans être capitaliste et qu'on peut le faire bien et qu'on peut aussi avoir un principe de... pas de redistribution de toutes les richesses, mais d'une meilleure répartition.
Oui, une équitabilité.
Et en ce sens, Esperanza, justement, je trouvais que c'était très très probant parce qu'on voit tous ces bénévoles qui travaillent d'arrache-pied. Le festival est vraiment... il glisse, quoi. Enfin, tout se fait et ce sont des bénévoles. Et je me dis, voilà, ça c'est un modèle de société qui pourrait très bien fonctionner.
Mais tout le monde serait bénévole. Donc une société où tout le monde serait bénévole.
Mais on est bénévole, mais on mange, on boit, on voit des super spectacles, on dort. Oui, non, on dort, mais on dort. Et c'est génial.
Non, je voulais juste dire qu'il y a quand même des systèmes, effectivement, des entreprises qui fonctionnent sur un système qui s'appelle holacratie, et donc où apparemment il y a quand même moyen de faire du profit, mais en respectant en tout cas et les travailleurs, et qu'il y a un système de représentation et pas d'élection. Et donc voilà, c'est possible, même au sein de certaines entreprises. Donc il y a moyen de faire du profit, mais tout en étant respectueux quand même.
Est-ce que ça tend à s'élargir? Parce qu'on parle aussi maintenant beaucoup d'entreprises sociales.
Pour moi, les entreprises sociales, je pense que c'est encore différent, parce que je pense que souvent elles servent aussi de biais de réinsertion socio-professionnelle. Et donc c'est intéressant pour la personne qui fait appel. Parce que quelque part, les prix sont plus avantageux à certains moments et permettent aussi de donner un emploi à des personnes qui autrement n'en trouveraient peut-être pas aussi facilement. Donc c'est une autre économie, effectivement.
Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, ça renvoie à cette notion de définition. Est-ce qu'on sait encore réellement, est-ce qu'on a encore tous la même définition du capitalisme, du féminisme, etc. Donc est-ce qu'on ne devrait pas passer par un travail vraiment de redéfinition du terme, quelque part?
Je pense que oui, parce que c'est vrai que chacun peut mettre... Par exemple, moi, je pourrais dire... voilà, je suis lesbienne. Et pour moi, le mouvement féministe, quelque part, j'ai encore un petit peu... je sais pas, un mauvais arrière-goût par rapport à ça. Parce que je me dis, dans l'histoire du féminisme, les femmes homosexuelles étaient au début intégrées au combat. Et puis, à un moment donné, les féministes ont dit, ben non, on veut plus de vous parce qu'il y a une confusion et on n'a pas envie qu'on nous prenne pour des lesbiennes. Et donc, on les a évacuées. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est quoi le féminisme? Avoir une image qui est, ben oui... Oui, forcément, je suis féministe, mais d'un autre côté, je ne veux pas me rattacher à ce qui s'est passé avant parce que je trouve que ça a été excluant comme mouvement. Et donc, je vais garder cette image-là. Et chacun peut avoir son image, effectivement, des définitions communes, il faudra arriver à les avoir, oui.
Alors, je pense que dans ces cas, alors il faudra revoir les sens, comme l'a dit
Sandy.
Donc, il faut revoir les sens des différents concepts et les adapter à la réalité actuelle.
Oui. Et créer, mais c'est ce qu'on parlait aussi d'intersectionnalité. En fait, à partir du moment où on est d'accord sur les définitions, on peut avoir des combats communs. Parce que sinon, chacun part dans son combat contre le racisme, contre l'homophobie, et on s'éparpille, en fait, hein, contre le capitalisme, alors que c'est le même combat. Hein. C'est exactement le même combat, quoi.
Mais je pense qu'on est d'accord que si, une fois qu'on tue le patriarcat, tout ira mieux, non?
J'ai pas.
Non, j'ai entendu, non. Bon, mais on est quand même d'accord que le gros problème, c'est le patriarcat.
On est d'accord que le gros problème, c'est le patriarcat. qui a engendré le capitalisme, qui a engendré toutes les hobbies, les phobies de tout. Oui, oui. Et les ismes. Là-dessus, on est d'accord.
Non, c'était un peu ironique, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Valérie, quand tu dis qu'il faut nuancer, en fait. Qu'on peut partir sur une base et puis qu'après il faut la nuancer en fonction des personnes, en fonction de leur vécu, en fonction de leurs aspirations aussi, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde veut s'arroger le droit d'avoir raison et d'avoir la vérité et puis de partir dans cette lignée-là sans tenir compte des variantes de vie de chacun.
Oui, je suis d'accord. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'arriver, effectivement, je pense qu'on a tous besoin de reconnaissance. Et donc, l'aspect communautaire, l'aspect on a le même combat, fait qu'on a cette reconnaissance, on se sent appartenir à une communauté, et ça fait du bien, et dans la construction et dans le combat. Le problème, c'est qu'à un certain moment, on peut arriver à un tel esprit communautaire qu'on va rejeter l'autre, parce qu'il va mal nous approcher ou il va mal comprendre nos combats, quoi. Alors qu'à la limite, peut-être qu'en face, on a quelqu'un qui est de bonne volonté, mais qui n'a pas tous les codes. Et donc c'est vraiment ça. Moi, quand je parle toujours de décloisonnement, il faut décloisonner, quoi. Il faut dire à l'autre, ok, je te connais pas, mais on va pas aller dans le rejet, quoi. Explique-moi et je t'entends.
Oui, c'est ça, même quand on n'est pas d'accord, même quand ce qui est dit en face, pour être vulgaire, fait chier, je pense que on a beaucoup à y gagner, je perds mes mots, mais on a beaucoup à y gagner à quand même entendre ce propos, parce que finalement c'est peut-être de là que vont se révéler de nouvelles idées, que va se révéler un réel débat et peut-être une avancée aussi.
Oui, tout à fait, et quelque part ça, se sensibiliser, comme je disais tout à l'heure, au débat des autres, donc être dans un croisement, une intersectionnalité. Parce que si on regarde dans l'histoire, les moments où il y a eu les grosses grèves et les gros mouvements syndicalistes, tout le monde était dans la rue, hein, tout le monde. Hein. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a eu des acquis sociaux. Et maintenant, tout le monde fait son petit contre le climat, contre, et on s'éparpille, quoi. Et donc, il faut vraiment se rassembler, je pense.
Pour être pragmatique, comment est-ce qu'on peut arriver à ce rassemblement? Parce que d'un côté, oui, on a des grands points qui sont tous communs, on va dire comme le pouvoir d'achat, l'économie, l'accès à l'emploi, etc. Mais on a aussi nos besoins spécifiques. Alors comment on fait pour trouver des grands points communs sur lesquels on se rassemble et qu'on règle, et puis après on descend vers des choses plus spécifiques?
Pour moi, le combat de base, c'est l'égalité des droits. Je pense que si à un moment donné on dit tout le monde doit avoir les mêmes droits, mais quelque part dans les faits, par exemple en Belgique, on est censé tous avoir les mêmes droits. En tout cas, si on est légal sur le territoire, etc. C'est encore un autre débat, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut se dire, ok, donc une fois que ça s'est acquis, mais on peut avoir le même combat, puisque quelque part on a les mêmes droits. Donc si on ne doit pas se battre pour un besoin individuel, on peut se battre pour la collectivité. Donc pour moi, les droits sociaux de base respectés amènent à un combat collectif.
Donc ça voudrait dire que les personnes qui sont privilégiées, qui ont ces droits sociaux acquis, devraient d'abord laisser leurs problèmes individuels pour descendre, chercher ceux qui n'ont pas encore ces acquis-là en termes de droits sociaux, se battre avec eux. Ouais. Parce que ça veut dire qu'ils abandonnent
leurs privilégiés. On les a quelques privilégiés, c'est clair qu'ils vont s'accrocher de plus en plus à leurs privilèges, l'argent, le pouvoir. Voilà, donc c'est vraiment...
Mais j'avais une question aussi par rapport à ça, puisqu'on travaille en équipe depuis maintenant presque une semaine. Donc on aborde souvent ces questions de privilèges, même en aparté et tout ça. Est-ce que, en tant que privilégié, sur certains points, par rapport à moi, pour ne citer que moi et pas Betty, je ne vais pas parler pour elle, est-ce que c'est à un moment c'est agaçant de s'entendre dire qu'on a des privilèges quand on sait justement qu'on n'a pas tous les privilèges qu'on voudrait, et j'aimerais bien qu'on arrête de me dire que je suis privilégiée, parce que si, par exemple.
Alors là, je vais me permettre de répondre parce que j'ai vachement réfléchi une fois qu'il y avait ces histoires de privilèges. Et en fait, pour moi, puisque on roulait en même temps, on roulait en vélo, tout d'un coup, j'ai fait viens, on s'arrête, on discute. C'était en fait, moi, qui est censé accorder des droits à tout le monde, sans discrimination. Et le problème, c'est que quand on parle, par exemple, d'un logement, et que je vais avoir la priorité, moi, en tant que femme blanche, avec un enfant blanc, il est blanc, et il est blond aux yeux bleus, je vais avoir la priorité, par exemple, sur une famille marocaine, où la femme est voilée, et je vais avoir la priorité parce que je suis privilégiée. Mais je n'ai pas le privilège d'avoir l'appartement. Pour moi, on ne m'a pas donné de privilège. En fait, on discrimine une personne, on discrimine des gens. Donc je me sens privilégiée, mais je n'ai pas de privilège par rapport aux autres. C'est la société qui crée des discriminations, et c'est ces discriminations qui font croire que certains ont un privilège par rapport aux autres. Voilà, après c'est peut-être me dédouaner d'avoir des privilèges. Ou alors on a une différente, parce qu'on en a parlé avec Jérôme mardi, c'est une autre notion de privilège en fait.
Oui, effectivement, c'est un peu de ça qu'on avait discuté, et c'est aussi du coup, pour refermer un peu mes propos tout à l'heure, c'est de nouveau l'accès au logement, pour moi, devrait être un droit pour tout le monde, sans inégalité. Et donc, voilà, comme l'a dit Déborah, elle se sent privilégiée, mais ce n'est pas un privilège auquel elle doit se raccrocher. Ce qu'il faudrait, c'est effectivement que la famille marocaine, avec la femme voilée, ait accès au logement de la même façon que Déborah, quoi. Et donc, c'est ça, c'est quand tout le monde a les mêmes droits sociaux, alors on peut avoir un combat commun. Sinon, chacun va aller vers son propre combat, quoi. Voilà. Je pourrais me dire, ok, je suis partie dans la lutte contre l'homophobie et tout le reste, je m'en fous, quoi.
Mais alors justement, est-ce que ça vous pose problème, ou est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous êtes prête, en tant que privilégiée, d'entendre ce discours-là de la part des moins privilégiés ou des non privilégiés ou des discriminés, pour le dire clairement, jusqu'à ce que ça change? Donc de l'entendre à répétition jusqu'à ce que ça change et de vous impliquer pour que les discriminés deviennent eux aussi privilégiés, jouissent des droits comme tout le monde.
À ton avis, pourquoi on est ici?
Oui, mais je veux dire, à un moment, est-ce que ça va... Là, j'essaye de faire l'avocat du diable. Est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas vous dire, bon, là, ça va, ça suffit, on a donné, on a fait Esperanza une semaine, on a fait ce qu'on a pu, maintenant, voilà. Parce que c'est un discours qu'on va répéter, marteler, jusqu'à ce que ça change, en fait.
Mais donc, je pense que ça fait... Je crois que ça dépend d'une personne à l'autre, aussi. Tu vois. Ça dépend d'une personne à l'autre. Moi, c'est les injustices... c'est un truc qui m'horripile et que je ne comprends pas. Et donc, oui, alors en effet, moi, je ne vais pas en avoir marre parce que tant qu'il y aura des gens qui n'auront pas la même chose que moi, et en même temps, il y en a qui ont plus que moi, hein, tu vois, du style Electra Bell et compagnie qui payent moins d'impôts que moi alors qu'ils se font des milliards dans leur poche. Et moi, tu vois, j'ai quand même galéré pendant pas mal d'années pour essayer tu vois, de garder la tête hors de l'eau, tu vois. Et là, je me dis que je n'étais pas privilégiée du tout, tu vois, même si j'avais un travail et tout ça. Mais oui, moi je pense que tant que... Après, il faut voir comment aussi on peut agir. Tu vois, moi j'agis comment en faisant de la radio? Est-ce que c'est suffisant? Bah, je sais pas.
Moi, je vais poser quelques questions aussi. Je vais faire l'avocat du diable un peu comme toi.
Et alors, voilà, j'ai tard.
Est-ce que... J'ai deux questions en fait. Est-ce que cette thématique, elle n'est pas un peu culpabilisante? Et deuxièmement, est-ce qu'elle ne met pas l'accent plutôt sur les différences que sur ce qui nous ressemble?
Mais sur les différences, c'est toi qui disais au début les différences que justement le fait d'être...
Oui, d'accord, je reviens. Oui. Donc au début, en fait, j'ai toute une petite introduction justement en disant que le fait de...
Bonjour Martha, en fait.
Bonjour Martha, ouais, bonjour Martha.
Bonjour.
Voilà, le fait de dire qu'il y a un privilège, notamment ici, un privilège blanc, c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée. Parce qu'en fait, ça stigmatise ceux qui ont des privilèges, ça les met quelque part en colère aussi, et ils vont vouloir garder de plus en plus ce qu'ils veulent. Et effectivement, ça ne va pas à la rencontre de l'autre, et à la découverte de l'autre. Et donc, du coup, c'est un cloisonnement, chacun reste dans sa petite case. Et donc, on ne va pas aller comprendre, on ne va pas mener un combat pour l'autre, puisque de toute façon, on ne le connaît pas, et il risque de nous prendre ce qu'on a déjà, puisqu'on est identifié en tant que privilégié. Et en plus, ça met aussi par rapport, ici, au privilège blanc, tous ceux qui sont plus pauvres et qui ne se reconnaissent pas dans ce privilège non plus, et qui vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Et donc, pour travailler, en tout cas, cette question-là, c'est peut-être pas la bonne porte d'entrée. Donc, c'était un peu, moi, ce que j'avais dit tout à l'heure, mais voilà, t'as l'air de te poser la même question que
moi. C'est ça, oui.
Oui, ce que moi, je disais aussi, c'est qu'en fait, moi, je me sens privilégiée, mais j'ai pas l'impression d'avoir des privilèges, clairement. C'est qu'en fait, on est dans une société discriminante, et tout le monde devrait avoir les mêmes privilèges, tout le monde devrait être... au point zéro, en fait, tu vois, les droits sont pour tout le monde. Enfin, on peut revenir sur 1789 et la Déclaration des droits de l'homme. Hein, tout homme naît libre et égaux en droit, sans distinction, c'est pas vrai. Et voilà. Et donc, le côté... c'est culpabilisant? Non, parce que, enfin, faut quand même se rendre compte que dans notre société, être blanc, c'est quand même une force. Être une femme blanche, ça reste une forme, même si on est une femme, du coup. et voilà, moi, je me sens... pas privilégiée dans tout et je me sens discriminée à certains moments en tant que femme déjà, donc de pas pouvoir par exemple me déplacer dans l'espace public en toute impunité, enfin sans avoir d'arrière-pensée. Je me sens discriminée aussi à certains moments, c'est aussi en tant que femme homosexuelle, par le même aussi de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir dire les choses aussi. Et voilà, je crois qu'en fait Est-ce que finalement il y a... J'avais parlé de hiérarchie des privilèges. Est-ce qu'il y a une hiérarchie des privilèges?
Oui, moi je pense qu'il y a une hiérarchie des privilèges. Tout au-dessus, on trouve l'homme blanc, cisgenre, c'est ça?
C'est bien, cisgenre.
Hétéro, cisgenre. De plus de 45 ans, donc voilà, qui est déjà assis économiquement, professionnellement,
40.
Qui peut... Plus de 40 déjà? Ouh là là, c'est tôt. Donc Fred, à la technique. Et après, voilà, on descend, on trouvera... Ben, de toute façon, c'est toujours les hommes. Et puis après, on trouve la femme blanche. Et en parlant de femme blanche aussi, elle est hyper privilégiée parce qu'elle est aussi le modèle de beauté pour le monde entier. Donc la peau claire, les cheveux lisses, la femme blanche, symbole de pureté, svelte et tout ça. Et c'est comme ça que ça crée des complexes à toutes les femmes, même au pays en fait. Les femmes se défrisent, se décapent la peau, enfin c'est... Voilà, ça. Donc il y a une hiérarchisation des privilèges, et tout en bas, malheureusement, on trouve la femme noire à qui on attribue physiquement tous ces attributs un peu sauvages, de lèvres lipues, de grosses fesses, de gros seins, femme exotique, sexuelle, objet de fantasme, et à qui on attribue aussi tous les critères, la femme noire fâchée. Ou alors elle est très fâchée, très très fâchée, ou alors c'est la mama passive. Donc en fait, on ne peut jamais être qui on veut. Et c'est ce qu'on disait justement, je suis remontée parce qu'on vient de voir le spectacle Congo Eza. Et Lisette Lambé disait, on ne peut pas, en fait, ou Joël, on ne peut pas être qui on veut. On doit être vraiment dans ces cases dans lesquelles on nous met. Et quand on voit une femme noire, je vais quand même la citer comme Assita Kanko, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec la manière dont elle mène sa vie politique, mais c'est son problème. Ça choque énormément parce qu'elle sort un peu de tous les codes. Elle n'est pas militante, elle n'est pas spécialement dans les faits afroféministes. Enfin, elle sort de tous les codes, et alors du coup, elle perturbe, elle dérange, mais en même temps, elle a raison parce qu'elle est ce qu'elle est. Et voilà, donc oui, il y a une hiérarchisation des privilèges et des privilégiés. Et la femme noire est tout en bas, et il faut que ça change. Je pense que Martha est d'accord avec moi.
J'ai une question par rapport justement à cette image de la femme noire. Ça, elle est restée parce qu'elle date de l'époque coloniale. Parce que je me souviens d'avoir vu passer des photos où effectivement on la représente comme ça. C'est vraiment c'est ce qui circulait comme image à l'époque. Est-ce que c'est un reste ? C'est vraiment est-ce que c'est resté cette image-là de cette époque-là ? C'est vraiment ça ? C'est oui. Cet héritage entre guillemets qui est encore présent.
C'est resté.
Mais les choses sont en train de changer parce que déjà il y a des gens qui commencent à remettre toute cette représentation en question. Et parce que effectivement, comme je le disais tout au début de l'émission, donc avant, il y a plusieurs faits plusieurs actes qu'on pose dans la société, mais tout en ne sachant pas que ça porte encore ces clichés coloniaux qui ont été hérités jusqu'à maintenant. C'est comme ça que, par exemple, en parlant de la femme blanche qui est restée un peu comme le modèle, comme il y a des filles qui se défrisent les cheveux pour avoir des cheveux plus lisses et n'acceptent pas leurs cheveux crépus. Et donc, il y a toujours... Par exemple, ça, c'est un exemple banal, mais personne ne s'interrogeait par rapport à ça. Mais à la fin, qui montre cette aliénation qui persiste dans la société et qui aliène aussi... Qui emprisonne encore la femme africaine, la femme congolaise par exemple. Mais aujourd'hui, face à cela, il y a des gens qui commencent à penser qu'ils pourraient mettre tous ces actes en question. Et il y a une certaine révolution par rapport à tout ça. Et c'est qu'on résume un peu dans ce système de décolonisation. Et une décolonisation, mais qui doit plus... C'est vrai que ça passe par plusieurs aspects de la vie au quotidien, mais plus c'est mental, au niveau du mental. Donc il faut revoir même la façon de réfléchir.
Qu'est-ce qui est mis en place justement pour aider ou pousser à cette réflexion ?
Donc il y a parfois des formations par rapport à ça, il y a des formations qui se donnent au pays, il y a même des ouvrages qui commencent un peu à être on fait un peu plus de publicité pour ces ouvrages, par exemple la pensée de Frantz Fanon qui parle aussi de cette décolonisation mentale et de la récréation, donc récréer des nouvelles nations d'Afrique. Donc les Afriques qui ont... Donc on a supprimé les Afriques, qui étaient nombreuses, parce que l'Afrique avec dans ses aspects multiples, et qu'on a juste mis ensemble à qui on a imposé un certain mode de vie en supprimant tous les patrimoines immatériels qui existaient en Afrique. Et c'est comme ça, par exemple, il y a ces formations, il y a des formations, il y a des espaces de débat, surtout avec la jeunesse. Et puis, il y a des livres qu'on vulgarise un peu plus. Il y a aussi des films qui poussent la réflexion au loin, qui sont projetés dans des espaces. Et après la projection, il y a des débats. Et même, il y a en Afrique, il y a plusieurs conférences qui se créent tout autour de la thématique. Et c'est toujours dans ce sens comment on va se réapproprier encore de l'histoire et créer une Afrique qui crée donc une Afrique qui est représentée par ses propres fantaisies, qui respecte les normes africaines et la vraie vie de l'Afrique.